nous choisir, au moins en partie, l'avenir du monde qui vient? Et d'abord, quel diagnostic sur l'état présent de la planète? Quel scénario possible sur les grands sujets géopolitiques? Un chaos mondial, mais jusqu'où? Devons-nous voir dans les relations Chine-États-Unis la confrontation du XXIe siècle? Et l'Union européenne dans tout ça, puissante, misérable, voire effacée? Et bien sûr, quid du Sud? Faut-il céder au pessimisme, voire au catastrophisme, ou se relever les manches avec intelligence et pugnacité? Pour répondre, nous avons l'honneur de recevoir Nicole Gnesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et professeure émérite au CNAM. Spécialiste des questions stratégiques, Nicole Gnesotto a été le premier directeur de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. Nicole Gnesotto publie « Choisir l'avenir, 10 réponses pour le monde qui vient » chez CNRS Éditions.
Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise.
Bonjour, Nicole Gnesotto. Choisir l'avenir. À ce propos, quelle est l'idée reçue qui vous semble inexacte et pourquoi?
Bonjour Pierre Verluise, merci de me recevoir. Je crois l'idée qui me paraît la plus fausse, c'est cette idée que le pire est devant nous et que l'impuissance des gouvernements va également prospérer en parallèle. Alors évidemment, on peut faire la liste de toutes les catastrophes attendues ou inattendues, qu'elles soient climatiques, sanitaires, géostratégiques, qui peuvent arriver dans les jours qui viennent ou les mois qui viennent. Mais moi, je ne crois pas à la fatalité du pire. Je ne crois pas que les marchés et la folie des hommes dominent le monde. Et ce livre, en partie, a été écrit pour revaloriser l'action politique. Mais l'action politique au sens noble du terme, pas les bisbilles politiciennes que l'on voit aujourd'hui. Sur cette idée que si on a une vision du monde, si on a une vraie volonté d'améliorer le sort de tous, et pas simplement le sort des Occidentaux, des Blancs Occidentaux, à ce moment-là, on a des grands choix stratégiques à faire et que l'on peut en partie reprendre maîtrise des grandes évolutions mondiales. Je crois vraiment, par exemple, sur les inégalités de revenus, je pense vraiment qu'une autre politique de répartition des richesses mondiales, européennes, nationales, est possible.
Nicole Gnesotto, venons-en maintenant à votre compréhension du sujet, choisir l'avenir autour de plusieurs axes. Premier axe, nous avons souvent l'impression de vivre un chaos mondial. Jusqu'où cela peut-il aller et quels sont les scénarios envisageables?
Alors, je crois qu'il faut employer effectivement le terme de chaos et non pas le terme de désordre. Parce que le terme de désordre suppose qu'il y a un ordre quelque part dans lequel on pourrait retourner ou dans lequel on essaierait de retourner. Par exemple, l'ordre de la guerre froide, mais c'est parfaitement impossible. Par exemple, l'ordre unipolaire de la superpuissance américaine occidentale des années 90. C'est parfaitement impossible, et d'ailleurs c'est très contesté par nos partenaires du Sud. Ou encore l'ordre collectif multilatéral des Nations Unies. Là aussi, c'est un échec total, dans la mesure où l'ONU est parfaitement bloquée par le veto de l'une ou l'autre des grandes puissances. Donc, je crois que le mot chaos est celui qui convient, parce qu'on ne sait pas vers quoi on peut aller. On n'a pas de référence historique d'un ordre meilleur que l'on voudrait de nouveau voir s'établir sur la planète. Et ça rend les choses encore plus difficiles parce qu'on n'a pas de modèle de référence et parce que on est soumise à des surprises. Nous sommes entrés effectivement dans un monde sans règles, sans gendarmes. Quand on regarde ce qui s'est passé les 10 dernières années, pratiquement tous les ans, il se passe quelque chose qui change la planète. Et qui rend l'anticipation donc très fragile. Mais on voit effectivement que le droit est complètement inopérant. Les Russes attaquent l'Ukraine et on ne fait pas grand-chose comme réponse. La force est au contraire débridée. L'Azerbaïdjan règle la question du Haut-Karabakh en quelques mois et voilà, tout le monde y trouve son compte. Que les Américains, le gendarme américain est dans un état d'attente, mais ensuite quand même de retour d'un isolationnisme assez fort. Et donc, on a effectivement un monde sans règles, sans droits, sans gendarmes, une force complètement débridée, et donc une très grande incertitude sur les scénarios à venir.
D'autant que les émotions sont omniprésentes, manipulées, pour cliver les sociétés, donc tout ça crée beaucoup d'incertitudes. Alors, quels sont vos scénarios ?
Alors, c'est très difficile, évidemment, parce que je crois que la grande difficulté dans l'analyse stratégique aujourd'hui, je dis ça d'abord parce que c'est une question de méthode importante, en particulier pour les jeunes chercheurs sur ces questions, la grande difficulté aujourd'hui, c'est de tenir ensemble tous les éléments de l'analyse, de l'équation. C'est-à-dire, il faut effectivement être bon en analyse stratégique, mais il faut l'être aussi sur l'économie, il faut l'être sur le commerce, il faut l'être sur les prix de l'énergie, il faut l'être sur les technologies. Et donc, la démographie, il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, ni dans le monde, ni en Europe, ni en France, un centre de recherche qui globalise l'ensemble des analyses, à part la CIA. La CIA est la seule institution, à mon sens, qui le fait, mais elle le fait évidemment en fonction des intérêts et de la vision des Américains. Mais ni à l'ONU, ni à l'Union européenne, ni même en France, on a une pensée globale du monde. Et c'est la très, très grande difficulté. Et donc, je dis ceci comme nuance de méthode, mais en tout cas, si on regarde les scénarios possibles, il y a premièrement peut-être un scénario de ce que j'appelle de restauration. Un certain nombre d'Occidentaux, dont beaucoup d'Américains, pensent l'avenir comme la restauration, la consolidation, et peut-être la restauration, oui, d'un monde dominé par les Occidentaux, donc avec leurs principes, leur vision démocratique leur extraordinaire moyen d'influence du monde. Donc ce monde d'une restauration de la puissance occidentale, qui est un scénario aujourd'hui très, très développé, en Occident, moi, me paraît voué à l'échec tout simplement parce que les trois quarts de l'humanité n'en veut pas. Et malheureusement, on oublie souvent que l'Occident, ça n'est plus que même 10% à peine de la démographie mondiale. Mais c'est un scénario qui est très présent dans la tête des stratèges américains. Le deuxième scénario, c'est le scénario de la confrontation. La confrontation, alors non plus Est-Ouest, mais la confrontation entre les démocraties d'un côté et les autoritarismes divers et variés de l'autre. Et si on incarne ces deux concepts, ce serait la confrontation entre la démocratie conduite par les États-Unis en Occident et l'autoritarisme conduit par la Chine dans le reste du monde. Et ça, c'est le scénario également très, très développé en Occident, cette idée que l'avenir du monde, eh bien, ce serait de nouveau d'instaurer un monde bipolaire entre, d'un côté, nous et eux, un scénario d'affrontement idéologique, stratégique, économique, technologique, etc. On en parlera peut-être tout à l'heure. Moi, je pense que ce scénario est extrêmement simpliste. D'abord parce qu'on a besoin de la Chine et d'autres régimes autoritaires sur certains sujets, comme le réchauffement climatique, donc on ne peut pas en faire un ennemi absolu, et parce que les démocraties de notre côté ne sont pas des démocraties sans honte ni péché. Quand on voit qu'un de nos meilleurs alliés au Moyen-Orient, c'est l'Arabie Saoudite, on peut quand même s'interroger sur l'excellence de nos démocraties, sans parler de la Hongrie et de tout ce qui se passe dans les pays européens. Et donc, le troisième scénario qui me paraît le plus, non pas le préférable, mais en tout cas le plus probable, c'est ce que j'appelle un scénario de désordre différencié. C'est-à-dire, non pas un système mondial, même si j'ai dit en introduction qu'il faut penser global, mais on est dans un moment historique où il est très difficile d'avoir une ligne de fond pour expliquer les différentes évolutions, et qu'on aura sur la planète différents types de structures, différents types de systèmes et différents types de désordres. Par exemple, en Europe, je pense que l'analyse de l'affrontement entre démocratie et totalitarisme a du sens. Nous sommes des démocraties avec l'Ukraine confrontées à la folie autoritaire de Poutine. Ceci a un sens sur le continent européen. Mais à mon sens, ça n'a pas de sens si on veut le globaliser à l'échelle de la planète. Et donc, il me semble qu'un des scénarios le plus probable est celui-ci, des désordres différenciés sur la planète. Le Moyen-Orient ou l'Afrique n'obéissent pas du tout à ce système. Il, le, pour l'Afrique, le système, c'est un système à la fois de chaos étatique et de, malheureusement, de fulgurance des réseaux mafieux, clandestins, terroristes, etc., etc. Le seul point qui tient ensemble, à mon sens, le seul élément qui tient ensemble ces désordres mondiaux différenciés, c'est effectivement la mondialisation économique. Et qu'on est toujours dans un système où l'intégration des marchés continue, quelles que soient les rivalités que l'on a avec la Chine ou avec d'autres, l'intégration des marchés, effectivement, compte tenu de tenir ensemble la planète.
Alors, vous parlez de la Chine, justement, Nicole Nélésotto. Faut-il voir dans les relations Chine-États-Unis la confrontation du 21e siècle ?
Alors, oui, sans doute, en tout cas, beaucoup, beaucoup d'Occidentaux le voient, mais inversement, les Chinois aussi ont commencé, depuis une dizaine d'années maintenant, à théoriser leur affrontement avec les États-Unis. Donc oui, ce sont les deux seules grandes puissances, d'ailleurs elles ont un point en commun, c'est qu'elles considèrent qu'il n'y a que les deux qui peuvent dominer le monde. Et donc, d'un côté américain, on a depuis des lustres cette ambition, non pas seulement du leadership mondial, mais cette ambition du monopole de la puissance, chose que les Européens ont perdue depuis la guerre de 14. Mais les Américains ne sont jamais sortis de cette idée qu'ils sont là, qu'ils sont le pays pour dominer le monde, le primus inter pares.
Et ils n'en doutent pas.
Moi, ils n'en doutent absolument pas. Et dans le livre, d'ailleurs, je fais un catalogue de toutes les déclarations de beaucoup, beaucoup de présidents américains depuis Wilson, et on voit que c'est absolument sincère chez eux cette idée que l'Amérique est là pour sauver le monde, qu'elle est le phare, qu'elle est la lumière, la puissance indispensable, etc., etc. Et alors, il y a eu, mais cette idée américaine considère du coup qu'aujourd'hui, au 21e siècle, c'est la Chine qui est l'empêcheur de dominer en rond, et on a vu plusieurs étapes dans la pensée américaine. Pour Obama, l'opposition avec la Chine était d'abord une opposition stratégique. Pour Donald Trump, l'opposition a été ensuite une opposition commerciale, une guerre commerciale très forte. Joe Biden a ajouté la dimension technologique avec un embargo sur tout transfert de technologie à la Chine. Et puis, il a ajouté aussi une dimension idéologique. C'est lui qui a le plus populariser cette idée de l'affrontement entre les démocraties et le totalitarisme chinois. Et du côté chinois, on réplique de la même façon, avec des associations extrêmement fortes de l'hypocrisie de la démocratie occidentale et américaine, avec la revendication d'un rêve chinois fondé sur d'autres valeurs, d'autres principes, et d'ailleurs avec un grand succès grâce aux liens commerciaux que les Chinois ont tissés avec la Terre entière. Et donc on a également en Chine cette volonté de puissance, mais surtout une volonté, alors lui, non pas de monopole de la puissance, mais une volonté d'autonomie de la puissance que cherchent les Chinois depuis le départ, c'est à rendre la Chine complètement autonome et donc indépendante de la technologie et de la dépendance à l'égard des États-Unis. Et donc on a ces deux blocs rivaux avec quand même une vraie différence sur le plan démographique, et je continue de penser que ça compte. Oui, on a quand même 1,4 milliard de Chinois et 300 et quelques mille Américains, donc une vraie différence démographique. Je ne crois pas qu'on puisse considérer cela comme un facteur totalement négligeable.
330 et quelques millions sous réserve de vérification. Trois scénarios, de manière courte, pour les relations entre la Chine et les États-Unis.
Oui, alors, il y a deux scénarios, me semble-t-il, extrêmes et improbables, impossibles même. Le premier scénario, c'est celui d'une guerre entre la Chine et les États-Unis, qui deviendrait évidemment une guerre mondiale. Cela me semble difficile pour une raison stratégique, qui est l'existence des deux côtés d'un potentiel nucléaire et l'existence de doctrines de dissuasion qui ont fonctionné pendant la guerre froide contre l'URSS et qui continuent de fonctionner au plus haut niveau entre la Chine et les États-Unis. Donc l'idée d'une guerre mondiale à cause d'un différend américano-chinois ou sino-américain, ça, ce scénario extrême me paraît peu réaliste. L'autre scénario extrême qui me paraît peu réaliste est celui, au contraire, d'une coopération bienveillante entre ces deux grandes puissances qui, tout d'un coup, mues par un intérêt général pour l'humanité, décideraient de coopérer, en tout cas au moins sur les grands enjeux de la planète que sont le climat et la paix mondiale. Ça, je crois que c'est également totalement surréaliste. Mais en revanche, donc, il me semble qu'il n'y a malheureusement qu'un seul scénario qui est celui de l'affrontement. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Toute la question est de savoir quel degré d'affrontement et quelle nature de l'affrontement. Et donc, je crois que là, il y a deux questions, deux scénarios qui doivent être pris en compte. Comment le maîtriser ? Or, on n'a pas, avec la Chine, les éléments qu'on avait avec l'URSS, c'est-à-dire tout le système d'armes contrôle, etc., etc. On n'a pas. Et donc, je pense qu'il est important que l'Amérique construise avec la Chine ce système de prévention des crises qu'il existait avec les Soviétiques. Et le deuxième facteur majeur, c'est celui-ci. Que vont faire les Européens dans cet affrontement ? Je crois que pour une fois, les Européens ont une clé majeure pour faire pencher la balance vers le pire ou le meilleur.
Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise.
Nicole Desotto, vous nous amenez directement à nous interroger sur la place de l'Union européenne. Dans le monde qui vient, l'Union européenne sera-t-elle puissante ou misérable ? Quel est votre diagnostic ? Quels sont vos scénarios ?
Alors, aujourd'hui, ce qui frappe dans l'Union européenne, c'est qu'elle est à la fois victime de crises ou d'événements majeurs qui la déstabilisent profondément, et en même temps qu'elle est d'une résilience absolument spectaculaire. Et alors, j'ai pas le temps de faire la liste de toutes les crises qu'elle a connues depuis 2008, crise économique, terroriste, réfugiés, sanitaire, Covid, guerre en Ukraine, etc. Mais j'ai peut-être le temps de montrer qu'à chaque crise, l'Union européenne s'est renforcée. La crise économique a donné l'union bancaire, le terrorisme a donné le mandat d'arrêt européen, le Covid a donné l'endettement commun, la dette commune européenne de plus de 750 milliards d'euros. Et la guerre en Ukraine a relancé de façon extraordinaire l'idée d'une défense européenne, d'une souveraineté européenne importante. Et donc, le diagnostic est celui-là, c'est-à-dire, est-ce que cela va tenir ? Est-ce que les forces d'intégration économique seront suffisantes pour empêcher la désintégration politique ? Ou est-ce que c'est l'inverse ? Est-ce qu'on va assister à cause de l'Ukraine, à cause de nos divisions sur plein de sujets, à des désintégrations politiques qui empêcheront de continuer l'intégration économique ? Je crois qu'on est absolument dans un tournant pour l'Union européenne.
Alors, quel scénario ?
Alors, là aussi, il y a deux scénarios extrêmes et des scénarios intermédiaires. Le scénario extrême, qui n'est pas tout à fait impossible, c'est celui de la déliquescence. De là, certains ont dit le détricotage de l'Union européenne, pas de façon brutale, mais de façon insidieuse, ou le scénario pendant lequel l'Union européenne ne résisterait pas à des divisions importantes sur les États-Unis, sur l'Ukraine, à la montée surtout du populisme à l'intérieur, à la remise en cause de l'intégration, à la remise en cause de l'état de droit, et avec peut-être un scénario dans lequel la Russie en profiterait pour avancer ses pions, voire même attaquer un petit pays de l'Union européenne, un état balte, qui mettrait les Européens dans un état d'effroi et d'impuissance. Je crois que ce scénario, qui est quand même un des scénarios du pire, n'est pas totalement impensable dans l'état actuel des choses. Le deuxième scénario, c'est un scénario inverse, c'est celui de la puissance européenne, où l'Europe, enfin, pour une fois, déciderait qu'elle ne peut plus se contenter de subir le monde, mais qu'elle doit essayer de le gérer de la moins pire des façons, et donc de construire les moyens de son autonomie stratégique, technologique, alimentaire, économique, etc. On entend beaucoup, beaucoup ce discours aujourd'hui, hein. C'est un discours presque majoritaire, et c'est une bonne chose, au sein de l'Union européenne. Mais dire que l'Europe va devenir une puissance, là aussi, ça ne veut rien dire si on ne décompose pas ce scénario en plusieurs questions. Et je crois que les questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette puissance européenne qui pourrait naître notamment à cause de la guerre en Ukraine, est-ce que cette puissance européenne sera européenne ou atlantique ? Autrement dit, est-ce que nous serons un des piliers européens d'un monde occidental en confrontation avec le reste du monde ? Deuxièmement, est-ce que cette puissance européenne se fera à 27, à 30 ou à moins ? Est-ce qu'on n'a pas Est-ce que l'élargissement n'emmènera pas un rétrécissement nécessaire de l'Union européenne avec ceux qui veulent et qui peuvent construire l'Europe comme une vraie puissance d'influence mondiale et puis enfin dernièrement, une puissance pour quoi faire? Parce que c'est quand même la vraie question que les Européens devraient se poser. Devenir très puissant et respecté dans le monde, oui, mais pour imposer ou pour faire valoir quel modèle de relations internationales, quel modèle du monde?
Quatrième et dernier axe, Nicole Nézotto, choisir l'avenir, c'est bien sûr s'interroger aussi sur la place du Sud. Comment comprendre la situation présente de ce monde qu'on disait tiers dans les années 50, devenu de loin le plus peuplé, et quel scénario pour demain?
Alors, le Sud, ou le Sud global, comme on dit aujourd'hui, c'est un acteur, un concept qui n'existe que dans le discours et la vision occidentale. Parce que quand on regarde la réalité, le Sud, les pays du Sud, ne représentent pas un ensemble uni, cohérent, puissant, volontariste, avec la même ambition. Pas du tout. Les pays du Sud, ils ont beau être représenter l'essentiel de la démographie mondiale, ils ont beau représenter maintenant plus de 30% du PIB mondial, c'est-à-dire un poids économique considérable, les pays du Sud sont extrêmement divisés, extrêmement différents, et en particulier quand on regarde les deux grands acteurs du Sud, l'Inde et la Chine, ce sont des pays qui sont des ennemis, qui ne sont pas prêts à s'entendre sur quoi que ce soit. Par exemple, la Chine refuse que l'Inde soit un des membres permanents du Conseil de sécurité. Et donc, le Sud reste, c'est assez intéressant, le Sud est devenu pour les Occidentaux un acteur, alors qu'il ne l'est pas du tout en réalité, même s'ils ont créé des sommets, les sommets des BRICS, etc., etc. Mais on voit bien que leurs divisions sont telles qu'ils arrivent encore moins à peser sur le monde, comme ensemble, que ne le fait l'Union européenne.
Et aucun pays africain n'est membre permanent du Conseil de sécurité.
Aucun non plus.
C'est extraordinaire.
Ni aucun pays d'Amérique latine. Oui. Donc, on est dans un système qui reste fait à 49. Et donc, et ça m'amène justement à dire, la seule chose qui fait, à mon sens, que le Sud existe comme acteur, c'est la critique de l'Occident. C'est la critique qu'ils font, non pas tant de la démocratie occidentale, ça c'est vraiment le thème de la Chine et de la Russie, mais pour les autres pays du Sud, c'est pas la démocratie qui est attaquée, c'est la puissance démesurée de l'Occident, ce qui pourrait... ils le disent pas, mais c'est moi qui emploie le terme, l'Occident comme accapareur de la puissance mondiale. C'est-à-dire cette idée que les pays du Sud, qui sont aujourd'hui riches, développés, nombreux, ne participent pas à la gouvernance mondiale, n'ont que des miettes ni au FMI, à la Banque mondiale et encore moins à dit. Et je crois que ce qui les réunit, c'est cette critique de l'Occident et cette volonté d'avoir leur juste place, ce qui me paraît être un message à écouter.
Nicole Nézotto, outre votre ouvrage « Choisir l'avenir », 10 réponses sur le monde qui vient, chez CNRS Éditions, quelles seraient là ou les ressources que vous pourriez nous conseiller?
Alors, comme je l'ai dit, malheureusement, il n'y a pas un lieu qui publie des ressources ou qui possède un point de vue global intégrant les différentes dimensions du monde. Mais on a la chance d'être dans un monde extrêmement, enfin dans un pays extrêmement riche. Donc, pour ce qui concerne en particulier les questions européennes, la Russie, l'Ukraine, je pense que les ressources de l'Institut Jacques Delors sont indispensables et le site, enfin, ce sont des ressources ouvertes, gratuites. Public. Pour ce qui concerne l'analyse plus stratégique, il me semble que, d'une part, le diplo web que vous dirigez vous-même, Pierre Berluise, est devenu en quelques années quand même un lieu à la fois de débat et de ressources incontournables. Je suis très admiratif de ce que vous avez fait de ce site. Et puis, il y a bien sûr à Paris l'IFRI, l'Institut français de relations internationales, qui, surtout sur les questions stratégiques, a développé maintenant, depuis sous la houlette de Thierry de Montbrial, une expertise qui est reconnue dans le monde entier.
Il y a aussi l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne que vous avez lancé, dont l'adresse est iss.europa.eu, où il y a des publications, beaucoup en anglais, mais qui sont des publications, je pense, tout à fait intéressantes. Un dernier mot. Comment faire pour que le Sud ne tombe pas sous la coupe de régime autoritaire?
Alors, c'est oui. Alors sur le Sud, il y a Pour éviter cela, il faudrait que les Européens, ou les Occidentaux, mais surtout les Européens, se définissent une stratégie vis-à-vis de ces pays du Sud. Actuellement, la stratégie qui semble être valorisée, c'est une stratégie de séduction. Alors avant, au 19e siècle et encore au 20e siècle, on avait une stratégie d'exploitation. Ça, c'est terminé, et heureusement. Maintenant, on a une stratégie de séduction, c'est-à-dire on essaye de les amener à penser comme nous, à nous rejoindre dans les votes aux Nations Unies, sur l'Ukraine par exemple. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ce que ces pays veulent, c'est le respect. Et donc ça, on ne l'a pas encore mis en cause.
Eh bien, nous allons rester sur ce mot. Un grand merci à Nicole Nézotto. Un grand merci également à notre réalisateur, Guillaume Nougaret. Planisphère recevait Nicole Gnezotto. Nous vous recommandons son nouveau livre, « Choisir l'avenir, 10 questions sur le monde qui vient », CNRS Éditions. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine.